jamais. C'est la fin de cette édition, il est 9h10 à Paris.
Bonjour, samedi 13 février, merci d'être au rendez-vous. On se retrouve pour revivre 7 jours d'événements avec bien sûr les reportages de la rédaction.
Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Après le flash, nous partirons pour l'Afrique. Rendez-vous également avec vos messages, bien sûr. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver, podcaster, comme on dit, cette émission sur le site de la radio RFI.fr. Cette semaine, nous allons parler du pape François et plus précisément de la diplomatie du chef de l'Église catholique avec notre invitée Constance Colonna Cesari, journaliste, auteur au seuil d'une enquête intitulée « Dans les secrets de la diplomatie vaticane ». Bonjour Constance Colonna Cesari.
Bonjour Pierre-Édouard Deldic.
Alors c'est vraiment une spécialiste que j'ai à ce micro parce que ça fait quoi? Ça fait 20 ans que vous intéressez au pape au pluriel?
Encore plus lointain en fait, parce que j'avais commencé mes études dans l'ambassade de France près le Saint-Siège, en grattant dans ses archives d'une période ancienne entre Pie XII et le général de Gaulle. Ça se passait déjà mal.
En effet. Alors donc, je vous ai invité d'abord parce que votre livre est formidable, avec en perspective l'actualité du pape en ce moment, son voyage au Mexique, son long séjour, quelques jours, et sa rencontre historique avec le patriarche orthodoxe russe, Kirill. En deux mots, vous pouvez nous resituer l'enjeu de cette rencontre qui est vraiment historique?
Oui, c'est un événement considérable. C'est un pape qui est sincèrement et profondément animé d'un œcuménisme sincère, à la différence de Benoît XVI, qui était plutôt hostile, hein, toutes ses avancées post-conciliaires. Donc François, là, c'est un pas de géant, voilà. Oh. Il a pacifié, en fait, les relations avec le patriarcat de Moscou.
Donc il faut rappeler que le schisme s'est produit en 1054, donc c'est une vieille histoire que cette division des deux églises catholiques, orthodoxes et église russe. Alors, ce qui est étonnant, c'est cette rencontre à l'aéroport de la Havane, à Cuba, pourquoi ça s'est pas fait à Moscou?
Alors, surtout pas Moscou ni Rome, c'est trop précoce. François fait passer le message à Cyril en lui disant « Je peux te rencontrer où tu veux dès demain ». La Havane, sphère d'influence russe, bien sûr, il fallait de plus que ce soit François qui se déplace, parce que c'est lui qui est demandeur, c'est lui qui a le plus à gagner dans cette aventure. Tous les papes ont rêvé d'aller à Moscou, tous les papes ont essayé de s'attirer les bonnes grâces du patriarche de Moscou, que ce soit Pimène, Alexis II ou aujourd'hui Cyril. Ils ont échoué depuis Jean-Paul II. Il y avait cette hostilité, cette peur du clergé orthodoxe face au prosélytisme en fait de la nouvelle évangélisation du pontife slave, et aujourd'hui ça marche à la Havane, qui est aussi l'intention de François de réhabiliter ce pays et ce régime au cœur des relations internationales.
Donc on en reparlera, on se souvient du rétablissement des relations diplomatiques avec les États-Unis grâce à lui, on va en reparler, Constance Colonna Cesari. Alors je crois que c'est le 12e voyage du pape, ce voyage-là, depuis son élection en 2013.
Voilà, il y en a déjà eu pas mal, et à chaque fois, alors c'est symptomatique, c'est toujours les périphéries. Par exemple, l'Europe. Si on prend les voyages en Europe, il a pas été à Bruxelles, il a touché, effleuré Strasbourg, et donc pas dans les instances communautaires les plus centrales, mais aucune capitale finalement de cette Europe arrogante, à qui fait un peu la leçon quand même quand il traite les instances communautaires, les instances européennes, l'Europe de grand-mère stérile, c'est fort. Donc il va plutôt toujours dans les périphéries. En Europe, c'était Sarajevo, c'était l'Albanie. Il est allé dans des petits pays latino-américains choisis exprès. Et là, quand même, il va au Mexique, qui est le deuxième pays catholique. Donc, c'est en cela un voyage important.
Alors, on va en reparler, évidemment, Constance. On va continuer notre revue des événements de la semaine avec une grande affaire qui occupe le monde politique français, cette fois. Mercredi, les députés ont en effet adopté le projet de loi qui inscrit dans la Constitution l'état d'urgence et la déchéance de nationalité pour les Français condamnés pour terrorisme. Mais ce n'est que le début d'un long processus. Le Sénat, majoritairement à droite, ne le votera pas, lui, sur cette question de la déchéance de la nationalité qui domine donc depuis des semaines le débat politique. Écoutez ce que disait mercredi l'ancien Premier ministre François Fillon.
Ce texte divise profondément tous les groupes du Parlement. Il va aller au Sénat où il va être profondément modifié. Il reviendra ici à l'Assemblée où la gauche ne pourra pas le voter. Nous allons donc rester encore des semaines et des semaines à débattre d'un texte qui n'ira jamais au Congrès parce qu'il n'y a pas de majorité des 3/5 au Congrès pour le voter. Donc moi, si j'ai un conseil à donner à François Hollande, c'est d'arrêter les frais, c'est de retirer ce texte et c'est de concentrer son énergie et celle du pays sur les vrais sujets. La lutte contre l'État islamique, la lutte contre le salafisme qui mine l'islam de France, et puis la lutte contre le chômage qui est quand même la raison première du cancer qui ronge la nation française.
Sept jours dans le monde.
Et il y a comme un goût de guerre froide dans la décision qu'a prise l'OTAN au milieu de la semaine, décision des 28 pays de l'organisation, dont la France, de renforcer son dispositif militaire en Europe centrale face à la Russie au siège de l'organisation à Bruxelles mercredi. Quentin Dickinson.
À l'issue de cette première session de travail entre ministres de la Défense, il a été confirmé le renforcement de la présence militaire dans l'Est et le Nord-Est du territoire de l'Alliance Atlantique. Ceci comprend la création de 2 quartiers généraux de zone qui viennent s'ajouter aux 6 mis en place récemment dans les pays d'Europe centrale. Cette présence sera multinationale et par roulement entre pays de l'OTAN. Elle s'affirmera notamment par le biais de manœuvres aéroterrestres d'envergure pour lesquelles des bases logistiques et d'autres infrastructures permanentes seront installées. Parallèlement, d'importants stocks de matériel et de munitions seront entreposés localement à la disposition d'éventuels renforts appelés d'urgence sur place. On retrouve là des dispositions analogues à celles appliquées tout au long de la guerre froide. Sur le flanc sud de l'OTAN, les ministres ont redit leur soutien à la Turquie, membre de l'Alliance, dans sa confrontation avec la Russie. Les radars volants AWACS et les batteries de missiles antimissiles Patriot seront maintenus en opération le long de la frontière turque avec la Syrie et avec l'Irak.
Notez aussi que l'OTAN va lancer une opération navale en Méditerranée pour lutter cette fois contre les réseaux de trafiquants, de passeurs qui rackettent les réfugiés. Et Constance Colonna Cesari, les réfugiés, ça me fait penser au voyage du pape, très important, très symbolique, à Lampedusa.
Ouais, acte fondateur de ce pontificat, parce que finalement, cet homme, personne ne le connaissait, sa parole, elle a séduit la planète soudainement avec cette dénonciation de l'indifférence, de la globalisation, qui a pleuré, personne. Donc il est venu, il a pris la barque, il a attiré l'attention du monde sur ce drame des migrants. C'est un Argentin, donc pour lui, il ne comprend pas l'indifférence et surtout l'égoïsme de l'Europe face à l'accueil des migrants. C'est sa priorité, c'est aussi de la diplomatie finalement.
Alors vous écrivez, Constance Colonna Cesari, après l'écroulement du communisme, les 2 seules instances internationales encore crédibles ne sont-elles pas d'une part l'Église catholique et de l'autre l'ONU? Bonne question.
Je le pense, et elles se confrontent sur des terrains très sensibles, de politique, des naissances, au contraire de contrôle des naissances, etc. Le synode sur la famille, c'est ça l'enjeu derrière, et ça crée des alliances parfois étonnantes. Le Vatican peut marcher par moments avec l'Arabie Saoudite, alors qu'il n'y a rien en commun, parce qu'il y a cet enjeu.
Ouais, alors vous nous rappelez que le réseau diplomatique du Vatican est le premier ou le deuxième au monde.
Oui, c'est une masse d'informations qui remontent, qui affluent de partout.
Mais comment ça marche? Je veux dire, ça remonte,
un prêtre,
qui les remonte? Ah oui.
Par exemple, va recueillir la confession d'un homme de la rue, va la faire remonter, il est informé, il écrit de temps en temps, il vient en voyage au Vatican, il va voir sa congrégation, si c'est un religieux, une fois par an, si c'est un évêque, il va en visite ad limina. Et voilà, ces gens-là arrivent quand vous arrivez dans un bureau du Vatican, où on vous fait attendre en général dans un petit bureau, il y a un livre de présence, vous ouvrez les pages, vous ouvrez, il y a des gens qui viennent du Japon, du Sri Lanka, d'Israël, de Chine, de partout.
Et il y a aussi les ambassadeurs du Vatican, les noms aussi, qui ont un rôle important.
Bien sûr. Ce sont des gens qui ont fait des études extrêmement approfondies, qui parlent toutes les langues, qui sont dans des postes mutés de façon assez régulière, encore plus, qui connaissent le monde entier, qui suivent tous les dossiers. C'est vraiment à la fois des gens de terrain. Vous voyez, par exemple, en Syrie, à Alep, ils sont dans des situations de guerre. Beaucoup l'ont payé de leur vie. Il y a eu des nonces assassinés. L'actuel ministre des Affaires étrangères du Vatican, Mgr Gallagher, a succédé à un nonce assassiné à Bujumbura, des hommes courageux, faut reconnaître.
Alors, comme la semaine dernière, Constance Colonna-Cesari, on va parler des primaires aux États-Unis, le continent américain très important, on va y en venir tout à l'heure. Primaires qui désignent les candidats à l'élection présidentielle de novembre prochain. Cette fois, cela se passait dans le New Hampshire. Une victoire de Donald Trump côté républicain et côté démocrate. Victoire éclatante de Bernie Sanders. Reportage de notre envoyée spéciale Anne-Marie Capobaccio.
Thank you, New Hampshire.
Merci, New Hampshire. Ensemble, nous avons envoyé un message qui résonne de Wall Street à Washington, du Maine à la Californie.
Bernie Sanders a gagné la primaire du New Hampshire avec une large avance telle qu'annoncée par les sondages. Le sénateur du Vermont a certes salué la perdante Hillary Clinton avec élégance, mais il a tout de même lancé un avertissement. « Nous voyons grand », a-t-il dit, « nous irons jusqu'au bout ». L'ancienne secrétaire d'État le reconnaît. Bernie Sanders représente un adversaire bien plus redoutable, bien plus pugnace que prévu.
Je sais que j'ai mené une vie privilégiée, mais je sais aussi ce que signifie trébucher et tomber.
Le parti n'avait pas envisagé ce scénario. Hillary Clinton devait gagner les primaires en livrant une bataille pour la forme. Aucun responsable démocrate n'a vu venir le mouvement Sanders, comme les républicains se sont trompés sur Donald Trump. Le prochain test va se dérouler à la fin du mois. Entre le 20 février et le 1er mars, 15 États vont se prononcer. Le camp Clinton n'en fait pas mystère. Il faut réfléchir, c'est urgent, aux leçons à tirer de ce faux départ qui rappelle de mauvais souvenirs.
Partons maintenant pour la Syrie. Nous en parlions déjà de la situation dans ce pays samedi dernier et les autres samedis d'ailleurs. Les forces du gouvernement soutenues par la Russie ne cessent de regagner le terrain perdu dans la région d'Alep notamment. Ces combats auraient fait à ce jour quelques 500 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. À Beyrouth, correspondance régionale de Paul Khalifeh au début de la semaine.
Appuyée par les frappes de l'aviation russe et soutenue par ses alliés du Hezbollah libanais, l'armée syrienne n'est plus qu'à 20 km de la frontière avec la Turquie. Elle a pris ce lundi deux nouveaux villages et se trouve à 5 km seulement de la localité de Tal Rifat, un des trois derniers bastions rebelles au nord d'Alep avec Azaz et Mara. Peignée par de lourdes pertes et désorganisée par la progression fulgurante des troupes gouvernementales, les rebelles ne parviennent plus à lancer des contre-offensives. Selon les sources de l'opposition, le Front al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, qui est une des composantes essentielles des groupes rebelles, aurait perdu 300 hommes dans la seule bataille de Rutian en fin de semaine dernière. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, les rebelles doivent faire face à un autre danger venant de l'ouest. Les combattants kurdes avancent de leur fief de Afrin, au nord-ouest d'Alep, vers l'est. Les rebelles sont pris en tenaille par les Kurdes d'un côté et l'armée syrienne de l'autre, et n'ont plus comme voie de repli que les chemins menant à la Turquie. L'armée syrienne poursuit également son avancée à Latakié. Elle est aux portes de Khan Sabah, dernier fief rebelle dans cette province côtière. Il y a trois mois, les groupes armés de l'opposition contrôlaient 20% de Latakié.
Un accord de cessez-le-feu en Syrie a été signé jeudi. La situation est à suivre dans nos journaux. Dans ce conflit, les Kurdes sont en première ligne contre l'organisation de l'État islamique, bien sûr. Ils préparent aussi leur avenir. Nicolas Falaise, jeudi.
Les combattants kurdes de Syrie sont soutenus par les États-Unis au nom de la lutte contre le groupe État islamique. Mais dans le chaos syrien, ces mêmes Kurdes renforcent actuellement leurs liens avec Moscou. En témoigne l'ouverture ce mercredi d'un bureau de représentation dans la capitale russe. Issa Khaled est le représentant en France du pays grec D, organisation politique et militaire des Kurdes syriens. Il explique que son mouvement entretient des liens avec la Russie comme avec les Occidentaux, mais il critique sévèrement l'opposition syrienne soutenue par la Turquie.
La majorité de ces personnalités sont des racistes, soit des islamistes, voire des terroristes, et ils ont peur de notre programme démocratique. D'ailleurs, ils sont soutenus, c'est pas pour rien, par les Saoudiens, les Qataris, les Turcs, qui sont très mal placés pour parler de la démocratie interne chez eux. L'État turc n'arrête pas de soutenir les terroristes jusqu'à maintenant et nous appelons à nos voisins turcs de respecter le droit international, les frontières et d'arrêter d'intervenir au secours des terroristes sur notre territoire.
Dans ce conflit, les Kurdes de Syrie jouent leur propre partition, cherchant à maintenir leur contrôle sur les zones autonomes qu'ils ont établies dans le nord du pays, ce qui inquiète la Turquie, elle-même aux prises avec une rébellion armée kurde.
Sept jours dans le monde.
Et nous retrouvons notre invitée Constance Colonna Cesari, auteur d'une enquête passionnante qui s'intitule « Dans les secrets de la diplomatie vaticane », livre publié aux éditions du Seuil. J'en profite, puisque nous parlons de religion, pour rappeler que nous avons sur cette antenne un magazine dédié aux religions, religion du monde, avec évidemment Geneviève Delru. On parlait des États-Unis tout à l'heure, Constance. Il faut rappeler que le pape François est allé faire un discours qui est fort remarqué devant les députés et les sénateurs américains.
Oui, c'était une étape symbolique, ce discours au Congrès. Aucun pape n'était jamais venu intervenir devant cette assemblée. C'était avant l'ONU, alors que là, il y avait déjà eu des précédents. C'était une opération de séduction de l'Amérique qui a marché, j'allais dire, du tonnerre de Dieu.
Oui, il faut le dire maintenant, c'est le dire. Ouais.
Et donc, il a fait œuvre, là encore, de toute son habileté œcuménique et diplomatique.
Oui, parce qu'il a dit les choses comme il sait les dire, hein, c'est-à-dire franchement... Hein.
Très simplement. En même temps, il en a dit un peu pour chaque parti. Tout le monde était content. Sauf peut-être ceux qui attendaient une dénonciation plus vigoureuse, notamment de la politique de l'avortement, de le remboursement de l'avortement.
Donc politique sociale, penser aux plus pauvres, voilà. etc. Le message. D'ailleurs, à propos de message du pape, quel est son message? Est-ce qu'on peut définir sa politique étrangère, entre guillemets? Parce que traditionnellement, l'Église défend la liberté de culte, la liberté tout court, non?
De conscience.
De conscience.
Exactement. La diplomatie vaticane s'inscrit...
De François.
Alors, voilà, je trouve qu'il y a quand même des lignes de fond. Il défend des valeurs, la paix, la justice, le développement. Ça, c'est le tronc commun depuis toujours. Alors évidemment, ces valeurs, elles évoluent, elles sont à géométrie variable selon les conflits, selon les problèmes, etc. Ils ont évidemment à cœur de défendre leurs intérêts aussi, comme toute diplomatie. Et leurs intérêts, ils sont pas économiques, ils sont pas politiques, ils sont uniquement la défense de leur communauté, faire en sorte que les chrétiens, les catholiques, plus c'est proche d'eux, évidemment, plus c'est important, puissent vivre leur foi, puissent aller dans leurs églises, que ces églises soient dotées de statuts juridiques aussi, c'est très important. Donc voilà, négocier avec les régimes pour permettre ça. Et ce qui leur fait évidemment le plus mal, c'est quand les chrétiens sont obligés de fuir, quand les catholiques sont obligés de... voilà.
Alors c'est le cas notamment en Irak, évidemment, depuis 2014 et la chute de Mossoul. Vous le rappelez dans le livre et vous rappelez tous les efforts que le Vatican a fait pour aider ces chrétiens, les yazidis.
Oui. Pour eux, donc c'est un drame absolu. L'exode des chrétiens des régions qui sont le berceau du christianisme, ça ne doit pas se produire évidemment, ça ne va pas se produire à Jérusalem, à Bethléem, et partout finalement sur l'ensemble du Proche et du Moyen-Orient, c'est inacceptable, et d'autant plus que le Vatican envisage non pas uniquement ses intérêts qui sont que les chrétiens puissent continuer à vivre là où ils sont nés, mais aussi ils considèrent qu'ils sont un pont et donc un facteur de paix par leur capacité de dialogue avec les communautés musulmanes. Donc c'est très important, ils estiment que quand tous les chrétiens auront fui par exemple d'Irak, la guerre sera encore pire pour les communautés musulmanes qui resteront.
Alors vous vous rappelez que la communauté des chrétiens d'Irak, les Chaldéens d'Irak, comptait 800 000 membres en 2003 et 300 000 membres aujourd'hui, on voit la différence. Vous parliez du rôle d'intercesseur du pape, ça a été le cas manifestement entre Cuba et les États-Unis. C'est
voilà.
Une sacrée réussite diplomatique ça du pape.
Cette opération a été montée d'une main de maître à partir de l'audience de Barack Obama au Vatican le 27 mars jusqu'à la fin, le dernier round des négociations qui, une seconde fois, s'est tenu à Rome, c'était en octobre 2014. Entre-temps, il y a eu 7 autres réunions à Ottawa et à Toronto, mais c'est vraiment le Vatican qui a permis de rassurer, finalement, le régime de Raúl Castro. C'est l'archevêque de la Havane qui est allé faire le médiateur, qui a transmis des lettres du pape aux deux présidents, et notamment... jusqu'à l'intérieur du bureau ovale, un archevêque cubain, c'est quand même pas habituel.
Alors, il y a Raúl Castro disant qu'avec un pape comme ça, il était prêt à redevenir catholique, c'est ça qu'il l'est d'ailleurs, il est catholique.
Oui, et il a été élevé chez les jésuites, Raúl ouais. Castro, et ça aussi, avec un pape jésuite, un pape latino-américain, cette justement mission secrète du cardinal cubain, elle est passée aussi par l'université Georgetown à Washington, donc les réseaux...
L'université jésuite.
Absolument. Mm. Ces canaux jouent aussi dans la diplomatie, bien sûr.
Constance Colonna Cesari, on va marquer une pause, retrouver l'actualité de ces dernières heures, et ensuite nous reprendrons notre voyage au cœur de 7 jours d'événements avec le pape François, grâce à vous. À tout de suite. Merci pour toutes ces informations. Retour à 7 jours d'événements avec la rédaction et notre invitée Constance Colonna Cesari, auteure d'une enquête qui s'intitule « Dans les secrets de la diplomatie vaticane », un livre publié au Seuil. Évidemment, il va être question de l'Afrique dans quelques minutes, mais intéressons-nous tout de suite à l'actualité française.
Une semaine d'actualité.
Avec d'abord un rappel, 6 adolescents ont été tués jeudi matin à Rochefort lorsque leur autocar a été éventré par la ridelle latérale, une paroi métallique donc, d'un camion qui le croisait au lendemain d'un drame similaire qui a coûté la vie à 2 jeunes dans le Doubs cette fois. Revenons maintenant sur le vote du projet de loi qui inscrit dans la Constitution l'état d'urgence et la déchéance de la nationalité par l'Assemblée nationale. 317 voix pour, 199 contre. Le Sénat, lui, ne votera pas ce projet. L'avenir de ce texte est donc pour le moins incertain. Julien Chavannes.
Plus ça va, moins je pense que l'on ira à Versailles. Pour ce sénateur de droite, le projet du gouvernement vit sans doute ses derniers jours. La droite est ici chez elle et compte bien corriger le compromis de l'Assemblée, à savoir rétablir la déchéance pour les binationaux. Bruno Retailleau, le chef des sénateurs Les Républicains, affûte déjà ses armes.
Le Sénat n'est pas aux ordres de qui que ce soit et le Sénat n'a pas à entériner une motion de synthèse du Parti Socialiste qu'on devrait en plus mettre dans la Constitution.
La droite au Sénat est donc prête à briser le fragile équilibre trouvé par les députés. Quitte à offrir à François Hollande une porte de sortie, quitte aussi à s'asseoir sur la consigne de vote de Nicolas Sarkozy et à suivre l'appel à voter non de François Fillon. Le candidat à la primaire compte de nombreux partisans au Palais du Luxembourg. Bruno Retailleau en fait partie.
Mais c'est pas comme ça qu'on raisonne. Je suis vraiment désolé. Moi, je ne raisonne ni vis-à-vis de la gauche, ni même vis-à-vis de ma famille politique. Je raisonne vis-à-vis de l'utilité, de la sécurité des Français.
Un projet de révision qui pourrait être enterré et un Sénat à accusé de laxisme, le président du groupe UDI, François Zocchetto, assume.
Pour nous, centristes, c'est un échec qui n'a vraiment pas de conséquences pour notre pays, puisque ce texte, au moins dans son article 2, n'a pas d'utilité.
Pas sûr donc que les 3/5 des voix soient réunies et qu'un congrès ait bien lieu à Versailles.
L'actualité française, c'est aussi un remaniement du gouvernement jeudi. Dernier verre pour la route, selon Libération. Monsieur Bricolage pour Le Parisien. Un dernier replâtrage pour finir le quinquennat, selon Le Figaro. C'est peu de dire que ce remaniement a été jugé très sévèrement par la presse hier. Arrivée de 3 écologistes du parti Les Verts, dont son ex-présidente Emmanuel Cos, pourtant très critique à l'égard du gouvernement. Retour de Jean-Marc Ayrault, Affaires étrangères, et intervention télévisée du président Hollande, Anis Al-Jabri.
Assise élargie, mais en trompe-l'œil, pas de personnalité du flanc gauche, 3 écologistes au gouvernement après 2 ans d'absence, c'est vrai, mais 2 sont des légitimistes. La seule vraie prise de guerre, c'est Emmanuel Cos, désormais ex-patronne du parti. Pas de quoi permettre au président de rebondir. Et d'ailleurs, François Hollande le sait, un remaniement, ça ne crée pas de choc dans l'opinion, dit-il en privé. La ligne sociale-libérale, sécuritaire, reste la même, surtout. Le président l'a bien répété 4 fois dans son interview, je ne fais pas de calcul politique, mais ce remaniement, c'est bien avant tout un moyen pour lui d'affaiblir encore les rivaux potentiels à la présidentielle que sont les écologistes. Pour le reste, statu quo, François Hollande veut un gouvernement qui va lutter contre le chômage. Sa baisse qu'on attend toujours, on le sait, c'est la condition sine qua non de sa candidature. Enfin, peu de précision sur le dossier du moment qui l'empoisonne, la déchéance de nationalité qui fracture sa majorité. Les Français veulent que ça aille vite et moi aussi, a dit le président, sans jamais préciser quel arbitrage, si le processus s'enlise au Parlement.
Parlons de l'élection présidentielle de l'année prochaine. Les candidats se déclarent peu à peu. Cette semaine, c'est le sénateur Jean-Luc Mélenchon qui a franchi le pas. Véronique Rigolet.
Après les candidatures de Juppé, Fillon, Sarkozy et de Madame Le Pen, explique Jean-Luc Mélenchon, il faut passer à l'action. Le cofondateur du parti de gauche se lance donc à nouveau dans la bataille présidentielle avec, je cite, « la volonté d'incarner la France insoumise et fière de l'être ». Et pas question, confirme-t-il, de passer par une primaire ouverte à toute la gauche. Dénonçant ce qu'il nomme une monarchie présidentielle, Jean-Luc Mélenchon propose d'inventer un nouveau modèle de société et lance pour ce faire un appel pour un nouveau mouvement citoyen sans affiliation, précise-t-il, à un parti politique. Avec le Parti communiste français en 2012, il avait recueilli plus de 11% des voix au premier tour de la présidentielle. Cette fois, il part donc seul et met les communistes devant le fait accompli. Une candidature qui intervient également alors que le président Hollande tente de mettre sur pied un gouvernement de combat pour 2017 et alors qu'il est affaibli dans son camp par le débat sur la déchéance de nationalité. Jean-Luc Mélenchon n'entend toujours pas le ménager. Reste à savoir s'il parviendra, sans le PCF, à réunir les 500 parrainages nécessaires pour pouvoir effectivement se présenter en 2017.
Je pense que vous avez reconnu cet air, Constance Colonna Cesari, cet air martial.
L'hymne Vatican.
Ouais, qui est un état, il faut le rappeler. Hein.
Absolument, 44 hectares, mais un état d'une influence qui évidemment transcende ce corps territorial qui est juste une assise, mais c'est au nom du Saint-Siège, c'est au nom de l'Église catholique qui est conduite la diplomatie, et c'est bien sûr au nom d'1,2 milliard de fidèles que s'exerce l'influence du pape.
En écoutant les différents reportages sur l'actualité politique française, vous faisiez une remarque très intéressante, je trouve.
Mais oui, le temps de l'Église, c'est pas le temps du monde. C'est une interview, je me souviens, du cardinal Poupart, qui est un peu le Jean d'Ormesson de la curie. Ah. C'était l'ancien ministre de la Culture qui disait, il y a le temps de l'Église et il y a le temps du monde. Et il a raison, parce que un autre monsignor, me commentant l'activité diplomatique intense vis-à-vis de la Chine, me disait, les Chinois ont tout le temps pour eux, mais nous avons la vie éternelle. En fait, c'est ça, c'est sub specie aeternatis, rien de presse du côté du ciel. Et ces lignes, elles ne bougent pas. L'Église catholique, elle va toujours dans la même direction. Évidemment, chaque pape influe avec sa personnalité, et son sens des priorités. Pour ce pape, c'est l'Amérique latine, évidemment, il a ça dans ses fibres, mais il y a quand même ses lignes de fond, évidemment.
Oui, parce que lui, on a, et vous le dites dans le livre aussi, Constance, c'est qu'on a l'impression qu'il est pressé aussi, lui, quand même, un petit peu de concrétiser tout ce qu'il a envie de faire.
Exactement.
Mais serait-ce que parce qu'il est âgé, quand même, on l'oublie, mais...
Voilà, 79 ans, ouais. C'est extraordinaire, déjà, tout ce qu'il a accompli.
Mmh, bien sûr.
L'étape à Cuba, alors là, c'est encore un succès aujourd'hui incroyable. Mais il y a eu cette réforme de la curie, il y a eu ces nominations, il y a eu ces voyages, il y a eu ces actes, il y a eu cette médiation sur Cuba encore une fois. Oui, il bouscule l'agenda parce que sans doute, vraisemblablement, il l'a dit, il renoncera lui aussi au trône.
Ouais, l'Amérique latine, il faut rappeler que c'est vraiment un pape de l'Amérique latine. D'ailleurs, il est au Mexique en ce moment. C'est vraiment son continent. C'est important de le préciser parce qu'il voit l'Europe avec un peu plus de détachement que ses prédécesseurs.
Oui, il juge même l'Europe assez sévèrement. La première des révolutions de cette élection, c'est quand même aussi une révolution géopolitique parce que l'Europe n'est plus le cœur de la chrétienté, c'est l'Amérique latine, ce sont ces églises miroirs, comme les appellent certains, par exemple Leonardo Boff, le théologien de la libération brésilien. Pour une fois, c'est l'inverse qui se produit, on défait l'évangélisation, on remonte finalement le cours de l'histoire, et on inverse radicalement la vision de l'Église et la vision du monde, qui est celle et la gouvernance de l'Église qui s'exerce depuis Rome. Et c'est d'ailleurs pourquoi son opposition la plus vive, François la rencontre au sein des épiscopats européens qui supportent pas ces leçons d'évangélisation du pape François, qui finalement, voilà, peut, sur des termes historiques.
Alors, vous, dans le livre qui fourmille d'informations et d'anecdotes, vous racontez que Shimon Peres, le président israélien, lui a proposé un jour, lors d'un voyage, de créer une nouvelle ONU qui s'appellerait l'ORU, c'est-à-dire l'Organisation des Religions Unies. Drôle d'idée.
Oui, il y a une utopie qui existe, qu'il a mise en marche lui-même lors de sa journée de prière pour la paix où il a fait venir Shimon Peres et Mahmoud Abbas au Vatican, le 8 juin 2014. C'était quand même extraordinaire. Il a une vision comme ça de la religion déconnectée d'une notion de pouvoir, de puissance, et qui, parce qu'elle serait purifiée de ça, pourrait agir justement plus efficacement pour promouvoir la paix. Et il montre l'exemple, lui, le pape, en conduisant cette politique et en espérant que d'autres vont la rallier.
Thank you.
Une semaine d'actualité.
Dans un instant, Constance Colonna Césari, on parlera du pape et de l'Afrique, car nous partons pour l'Afrique, figurez-vous. Même les déplacés sont victimes des terroristes. Mardi, deux femmes ont fait sauter leur charge explosive dans un camp de déplacés à Dikwa, dans l'état de Borno, Nigeria, Abla Junaidi.
Le camp de Dikwa, à l'est de Maïdougouri, abrite plus de 50 000 personnes ayant fui l'ex-Boko Haram et les opérations militaires qui visent le groupe. D'après le chef des services d'urgence de l'état de Borno, mardi, au petit matin, trois femmes déguisées en réfugiées sont arrivées dans le camp, armées de leurs ceintures d'explosifs. Deux d'entre elles ont alors actionné leur charge. La troisième ne l'a pas fait quand elle a su que ses proches se trouvaient dans le camp. Elle s'est ensuite rendue aux autorités. L'action des deux autres kamikazes a entraîné la mort sur le coup d'au moins 35 personnes, mais également fait des dizaines de blessés transportés dans des hôpitaux de Maïdougouri. Conséquence, dans les heures qui ont suivi, le bilan des morts a donc été revu à la hausse. Le mode opératoire correspond à celui des ex-Boko Haram. La secte islamiste, bousculée par la force conjointe multinationale, a accéléré le recours aux violences contre les civils. Villages, camps de déplacés ne sont pas épargnés. Et ce n'est pas fini si l'on en croit la kamikaze qui s'est rendue aux autorités. Des nouvelles attaques sont à craindre en représailles aux actions militaires visant le groupe islamiste.
Partons pour le Sénégal, maintenant à Dakar, pour la reprise du procès d'Hissène Habré. Mercredi, c'était le jour du réquisitoire. Correspondance de Guillaume Thibault.
Peut-être dans un dernier espoir de faire réagir l'accusé, le procureur récite un verset du Coran. Hissène Habré ne bouge pas. Mbakéfal demande à la cour une condamnation à perpétuité.
Monsieur le Président, je requiers qu'il vous plaise prononcer la condamnation de Hissène Habré à l'emprisonnement à perpétuité.
Le procureur a demandé la peine maximale, car dans ses statuts, la Chambre africaine peut condamner à 30 ans de prison ferme. Mais la perpétuité est possible si les faits sont jugés très graves. À l'annonce de ce réquisitoire, Souleymane Gengeng, le président fondateur de l'association des victimes, se dit satisfait.
Je suis parfaitement satisfait puisqu'on ne pouvait pas aller au-delà de ça. D'ailleurs, Habré méritait plus que ça, mais nous, les gens des droits de l'homme, on n'est pas dans les peines capitales. On est réellement satisfaits, nous les victimes.
Les avocats commis d'office d'Hissène Habré s'attendaient à cette demande du procureur. Ce jeudi, à la barre, ils plaideront la non-culpabilité d'Hissène Habré, maître Mounir Balal.
Il s'est avéré que la majeure partie de ces témoignages était très peu fiable et très peu crédible. La responsabilité pénale, individuelle et personnelle du président Habré ne peut pas être recherché sur la base des éléments qui ont été produits par l'accusation. Nous allons plaider non coupable.
Alors qu'une de ses proches s'évanouissait à la sortie de l'audience, Hissène Habré est lui parti en faisant son traditionnel V de la victoire.
Et effectivement, jeudi, les avocats de la défense ont demandé l'acquittement d'Hissène Habré. Verdict le 30 mai prochain.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, vous la connaissez par cœur. Un bonjour aujourd'hui à Souleymane, expert associé au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar. RFI, c'est la radio qui me permet de comprendre le monde, écrit-il. Merci Souleymane. Bonjour Aliane, qui attire elle notre attention sur la fragilité du système bancaire mondial alors que les places financières sont en crise. Bonjour à Mohamed, à Kidal, à Hassan, à Tunis et à Alpha Oumar en Guinée.
7 jours en Afrique.
Et avant de reparler du pape François et de l'Afrique, nous partons pour l'Afrique du Sud, Constance Colonna Césari. Mardi, les avocats du président ont reconnu devant la Cour constitutionnelle que Jacob Zuma aurait dû rembourser une partie de l'argent public dépensé pour les travaux de sa résidence privée. La Cour a examiné une plainte déposée par différents partis d'opposition. Johannesburg ce jour-là, Alexandra Branjon.
Devant la cour, plusieurs centaines de manifestants, principalement des militants de Julius Malema, dont le parti a saisi la justice. Sur les pancartes, on peut lire « Zuma doit tomber » ou bien « rembourser l'argent ». Ambiance plus grave à l'intérieur de la cour, les avocats du chef de l'État ont fini par admettre qu'il aurait dû rembourser l'argent, comme l'exige depuis 2 ans la médiatrice de la République. Mais selon Jeremy Gauntlet, avocat du président Zuma, il n'y avait pas volonté de remettre en cause ni les pouvoirs de la médiatrice ni la Constitution.
Ce qui a été décrit par le parti de Julius Malema comme une conduite de défiance du président n'est rien d'autre que de la bonne foi et une erreur d'interprétation de la loi.
Un retournement spectaculaire de la part d'un président qui, il y a encore quelques mois, refusait de rembourser un centime. Mais pour Wim Trengor, avocat des plaignants, ça n'est pas suffisant.
Que le président dise aujourd'hui qu'il va se plier à ce que la Constitution exige de lui n'est pas suffisant, même si cette capitulation du chef de l'État ici aujourd'hui est gratifiante.
Les plaignants veulent que le président Zuma soit reconnu coupable d'avoir violé la Constitution, ce qui ouvrirait alors la porte à une procédure de destitution.
Terminons notre voyage africain à Brazzaville, où une femme de lettres, figurez-vous, Rosemonde Moussara Gambou, s'est déclarée candidate à l'élection présidentielle. Portrait signé Loïcia Martial, notre correspondant.
De bleu vêtu, chaussures noires aux pieds, des boucles en or bien posées sur ses oreilles, Gilda Rosemonde Moussara Gambou a fait son entrée dans la salle de conférence de la préfecture de Brazzaville avec un grand sourire. Elle a été chaleureusement applaudie par quelques dizaines de militants qui ont attentivement écouté son annonce.
Ma candidature à l'élection présidentielle du 20 mars 2016 est avant tout un acte de conviction. En effet, je suis convaincue que le temps est arrivé pour qu'une nouvelle génération montre aux yeux de toute la nation congolaise et du monde entier qu'elle est prête à prendre le relais.
Femme des lettres, âgée de 42 ans, auteure de plusieurs ouvrages, Madame Moussara Gambou est membre de la Conscience libre, une formation de l'opposition.
Par cette candidature de l'élection présidentielle du 20 mars 2016, je viens prendre date avec l'histoire de mon pays. Je viens redonner l'espoir à une nation qui attend d'être délivrée d'une pauvreté, d'une souffrance et d'une misère qui n'ont que trop duré.
Madame Moussara Gambou sera la deuxième femme dans l'histoire politique du Congo à briguer la magistrature suprême après Angèle Bandou en 1992 et 2002.
À rappeler aussi dans l'actualité africaine, mais dois-je le faire vraiment, la victoire en football des Léopards de RDC dans le championnat d'Afrique des Nations.
Une semaine d'actualité.
Et nous retrouvons Constance Colonna Cesari, auteur d'une enquête publiée au Seuil qui s'intitule « Dans les secrets de la diplomatie vaticane », livre publié donc au Seuil. L'Afrique a toujours été un continent important pour le Vatican, plus que jamais.
Oui, bien sûr. On savait d'ailleurs qu'il allait se rendre en Afrique, ce pape François, comme Jean-Paul II l'avait parcouru dans tous les sens à tant de reprises. Oui. On le savait d'ailleurs qu'il irait là avant d'aller en France. C'est toujours
symbolique.
Exactement, c'est pas ses priorités. Et la diplomatie de l'Église en Afrique, elle est complexe quand même à mettre en œuvre, parce que les États sont fragiles, parce que finalement le Vatican est beaucoup plus aguerri à un dialogue même difficile, même conflictuel, avec des régimes hostiles. On a l'habitude, on fait ça depuis toujours, la Chine, l'URSS bien sûr. En Afrique, dès qu'on a des relations, ça s'effondre, les élections, on sait pas toujours si ça se passe bien, donc on s'appuie plus là-bas sur les églises, mais encore une fois, elles sont pas toutes fiables, de bonne qualité, elles sont parfois trop partie prenante dans les conflits, donc elles délivrent des messages qui sont pas toujours les bons. Ça s'est produit au Soudan, finalement, l'église catholique locale voulait cette partition, mais est-ce qu'elle a vraiment fait le jeu du Soudan, est-ce qu'elle a calmé les conflits? C'est pas sûr. Et par contre, elle a peut-être fait le jeu des Américains, donc c'est très compliqué.
Alors, depuis son élection en 2013, François est allé au Kenya, en Ouganda, et il a fait aussi un voyage remarqué à Bangui, en pleine tension, pour le moins presque guerre civile.
Oui, absolument.
C'était le 25 novembre 2015.
Une étape qu'on lui déconseillait, mais justement
oui,
parce que ce
notamment
pays...
les Français.
Absolument, parce que ce pays connaît ses troubles, avec en plus un caractère religieux dans ces affrontements entre des communautés et des troupes catholiques et musulmanes, avec des morts de chaque côté tous
c'est
les jours.
C'est le cas anti-Balaka, oui, c'est ça.
Absolument. Une médiation entre un évêque et un imam paraît en plus opérer. Donc c'est ce type d'action qu'il veut soutenir, mettre en œuvre, appuyer et démontrer que c'est un bon exemple. Et puis, il a eu ces mots incroyables. Bangui, il a proclamé, donc Bangui, la capitale spirituelle du monde. monde en décrétant que ce serait dans la cathédrale de cette capitale qu'il allait inaugurer finalement l'année sainte. Donc un geste d'une portée évidemment, toujours ce pape des périphéries.
L'année de la miséricorde. Et alors donc on va repartir au Vatican et vous nous parlez dans ce livre d'un conseil pontifical qui s'appelle le conseil pontifical Justice et Paix qui gère un petit peu, on peut dire les choses comme ça, les affaires africaines, pardonnez l'expression, du Vatican.
Il est très informé, mais en effet beaucoup sur l'Afrique, où là, il n'y a pas de centre qui pourrait informer sur l'ensemble du continent. Donc, ce bureau Justice et Paix, dans lequel officie un évêque, actuellement il est dirigé par un évêque africain, Monseigneur Turkson, absolument. Il y a des jésuites qui sont des très bons agents de renseignement. En fait, ce bureau, il est considéré comme une sorte d'USAID, c'est-à-dire cette agence de renseignement américain dont provenait, vous savez, cet espion relâché par la Havane, justement Alan Gross.
Ce qui frappe, c'est que contrairement à d'autres services de renseignement occidentaux, le Vatican a toujours gardé cette notion de renseignement humain qui est primordiale.
Exactement, parce que...
C'est une parenthèse.
On veut des renseignements pour aider. Voilà, c'est ça la mission. On veut pas des renseignements pour faire des affaires, pour aller signer des contrats, pour vendre des rafales. On veut des renseignements parce qu'on estime que l'Église en a besoin si elle veut apporter une aide éclairée. Donc c'est vrai que beaucoup d'informations sur l'Afrique sont d'autant plus nécessaires qu'elles n'existent nulle part ailleurs. Elles ne remontent vers aucune autre tête dans le monde, sauf peut-être à l'ONU, à l'OMC, mais justement le Vatican s'en occupe efficacement. Là, par exemple, il est très vigilant dans tout ce qui est déclaré comme des atteintes de ce qu'on appelle le land grabbing, donc toutes ces compagnies privées qui finalement enlèvent à des gens pauvres en général, leurs moyens de subsistance, c'est-à-dire leurs terres. Et notamment, il y a toute une surveillance actuellement dans tout ce qui se passe dans le Kivu.
Ouais, dans les Kivu, où là, effectivement, il y a une exploitation éhontée du sol, des richesses de la RDC. Et vous notez aussi qu'il y a des hommes d'église qui sont très engagés dans le combat des droits de l'homme aussi en Afrique.
Et dans la démocratie.
Dans la démocratie, ouais.
Des évêques et des conférences épiscopales africaines qui ont joué d'ailleurs des rôles clés dans les années des négociations, des médiations et qui continuent avec, je vous dis, des déséquilibres. C'est-à-dire qu'il y a certains épiscopats qui sont très forts, très puissants, très militants, avec des voix très vindicatives, et d'autres beaucoup plus compromis, d'ailleurs, aussi sur les terrains de la moralité, des épiscopats douteux, des hommes dont on sait qu'ils sont mariés, qui sont plusieurs femmes et enfants. Donc voilà, il y a une église africaine qui est parfois très brillante et qui pose problème aussi à Rome.
Qui est concurrencée, vous le rappelez d'ailleurs, par les églises évangéliques sur le continent, hein, qui mord sur, si j'ose dire, sur l'influence catholique.
Oui, bien sûr, et ça c'est une concurrence qui existe aussi, évidemment, pour Rome, et dont elle doit bien tenir compte.
Alors, de façon générale, parce que votre livre est aussi un livre d'histoire, vous nous rappelez que grâce à un pape, en l'occurrence Jean XXIII, on a pu éviter une crise qui aurait pu elle-même déboucher sur une guerre mondiale. C'était en 1962, et c'était une crise entre les États-Unis et Cuba.
Oui.
Curieux, hein?
Et curieux aussi cette concordance des temps, parce qu'on est en octobre 62, c'est le moment où s'ouvre à Rome ce concile extraordinaire convoqué par le pape Jean XXIII. Donc arrive à Rome des envoyés du patriarche russe de Moscou, vous voyez, on en reparle, ils sont toujours dans l'actualité. Et donc ces hommes-là sont un pont qui permet à Jean XXIII d'envoyer des signaux à Moscou. Il y a d'autres canaux, mais ceux-là sont importants. C'est la première fois que des orthodoxes participe à un concile qui bien sûr œcuménique, et donc le pape écrit un appel à la paix qu'il lit à son audience, mais qui sera publié en une de la Pravda, et finalement qui finit par aboutir. Évidemment, c'est pas le seul élément, mais ça y a contribué.
Alors vous nous rappelez aussi, on va terminer avec ça, Constance, qui le pape a un compte Twitter, c'est ça, non?
Bien sûr.
Record, je sais pas si on dit comme ça, Pontifex.
Exactement, et un compte sur lequel on peut même écrire en latin.
En latin, oui, c'est même fortement conseillé. Qu'est-ce qui fait la singularité de François Ier, devenu François d'ailleurs?
Moi, je dirais avant tout, encore une fois, sa fibre latino-américaine, et à l'intérieur de l'Amérique latine même, sa fibre argentine.
Mais vous nous rappelez que dès le départ, dès qu'il a été élu le 13 mars 2013, quelque chose est passé entre lui et les peuples, en fait, tout de suite. Sur la place du Vatican, sur la place Saint-Pierre.
Moment extraordinaire, tout. Il est arrivé avec déjà l'ensemble de ses messages. Une révolution finalement, il a refusé tous ces oripeaux traditionnels de la papauté. Il est
apparu. Il était préparé pourtant le jour de son élection, tout était prêt, mais il a dit non, je ne veux pas de ça, il est apparu simplement.
Voilà, c'est pour ça qu'on a vu des ombres se profiler très longuement derrière ce rideau avant enfin qu'on découvre qui était ce nouveau pape. Et son discours surtout, qui a été frappant, il a prononcé le mot peuple, il a demandé, il a dit moi l'évêque de Rome et non pas le pape, je demande au peuple de me bénir. Donc le mot peuple dans la bouche d'un pape, c'est révolutionnaire. Ce mot de révolution, d'ailleurs, il l'a utilisé en Équateur en disant l'Église est toujours révolutionnaire. Donc vraiment, oui, il est arrivé avec cette soif d'appuyer une révolution, de s'imposer comme finalement le représentant des peuples. Et non pas ce pouvoir comme ça, cette monarchie absolue dans sa tour d'ivoire, si on peut parler des papes comme ça.
Merci Constance Colonna Cesari, il faut lire votre livre qui s'intitule « Dans les secrets de la diplomatie vaticane », c'est le titre de votre livre, publié donc aux éditions du Seuil, merci.
Merci.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées, cette fois le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde. Et nous recevrons le sociologue Raphaël Lioger qui vient d'écrire « La guerre des civilisations n'aura pas lieu ». Demain dimanche, 16h10, temps universel, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.